Donc bonjour et rebonjour. On va commencer cette nouvelle et dernière table ronde qui est consacrée au sujet épineux et essentiel des rapports de domination et des discriminations. Donc je suis Anna Perraudin, chargée de recherche en sociologie à CITER. On a choisi de modifier un tout petit peu l'organisation de la journée par rapport à ce qui figure sur les programmes pour faire gagner du temps et essayer de vraiment s'arrêter à 16h30. Donc on vous propose d'avoir toutes les interventions les unes à la suite des autres et de garder le temps de débat pour la fin. Sachant que la séance sera conclue par une synthèse de Régis Cortesero, pardon, sociologue, qui conclura l'après-midi. Donc avant, on va écouter plusieurs interventions. Les deux premières en dialogue, comme on a pu voir précédemment, avec des retours sur la recherche d'Engagir par les centres sociaux, puis la synthèse par les chercheurs. Donc, dans un premier temps, on entendra Thierry Fouquet, directeur de la TCS, Anne Bizet, directrice de la CGCS, et Catherine Boissier, administratrice de la Fédération régionale des centres sociaux. Je présente les personnes à cette table. Puis Sarah Rétif, qui est doctorante en sociologie à CITER, Julie Garnier, maîtresse de conférence à l'Université de Tours, et Gulchin Lelandais, chercheur CNRS. Ah, elle n'est pas là ? Gulchin Erdi. Gulchin Erdi, excuse-moi. Gulchin. Puis Hélène Balazar et Anaïque Puren, chargées de recherche en sciences politiques et en sociologie à l'ENTPE de Lyon, et Samia Ben-Sherifa, coordinatrice au Centre social de Vaux-en-Velin, qui feront une présentation à trois voix. Et enfin, Ciliane Larcher, par Vision Conférence, qui est chargée de recherche en sciences politiques à l'IRIS. Voilà, on peut commencer, je pense, sans plus de
palabres. Ça marche. Je vais repréciser, c'est pas Anne Bizet, directrice de la CGCS, c'est Anne Bizet, administratrice à la Fédération régionale. Voilà. Je continue à reprendre le flambeau pour essayer de pallier l'absence de notre président de la Fédération. Cette question des rapports de domination et de discrimination, effectivement, il n'était pas prévu de la traiter dans le projet Engagir, mais elle est apparue au fur et à mesure des ateliers de coproduction avec les centres sociaux qui étaient impliqués dans la démarche en novembre 2018 et puis aussi dans la journée de co-construction d'ateliers. Du coup, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les acteurs en présence qui contribuaient à cette démarche ont évoqué à plusieurs reprises le fait qu'ils se trouvaient face à ces questions et qu'ils n'osaient pas rebondir, ils ne savaient pas comment traiter ces questions de rapport de domination et de discrimination. On peut se poser la question de ces discriminations. Est-ce que ça ne révèle pas une difficulté supplémentaire de pouvoir d'agir des habitants par rapport à ces habitants qui sont discriminés? C'est un sujet qui fâche, effectivement. On l'a vu hier avec la compagnie de théâtre, un sujet tabou. Et on peut aussi s'interroger sur comment cette question de domination et discrimination est prise en compte dans les projets sociaux. Est-ce qu'elle est verbalisée clairement? Est-ce que on n'utilise pas plutôt le mot de développer le lien social, le mieux vivre ensemble, qui du coup masque et camoufle la réalité qui est la discrimination et le rapport de domination. Mais en même temps, ça nous fait certainement un petit peu peur, parce qu'on risque de perdre aussi, si on annonce clairement qu'on va traiter ces questions-là, est-ce qu'on ne va pas perdre non plus la notion de convivialité et la notion du modèle de c'est là où on se sent bien dans le centre social, où tout va bien. Voilà, il y a cette ambiguïté aussi qui est là, qui fait qu'on a du mal à énoncer clairement ces thématiques dans les projets sociaux et dans nos projets, dans nos actions. C'est une interrogation.
Alors, pour continuer sur ce thème, nous avons aussi parlé de mixité. Alors, vous le savez très certainement, les centres sociaux, pour avoir leur agrément, ils sont tenus d'appliquer, entre autres, la circulaire CNAF, qui nous parle de mixité. Ben alors, justement, avec le début des travaux de la recherche Engagir, il est survenu cette question. Donc, nous nous sommes posé la question, est-ce que le centre social accueille une population mixte ? Alors, mixte, aussi bien de genre, de classe, culturelle, ethno-raciale, enfin toutes ces questions qui peuvent traiter de la mixité. Alors, de genre, déjà on s'aperçoit que il y a peu d'hommes dans les centres sociaux. Par contre, on retrouve peut-être plus d'hommes dans les conseils d'administration, donc ça interroge. On va aussi trouver évidemment alors plus de femmes dans, je dirais, le travail technique et les postes de gouvernance. Ce que je viens de dire, c'est un peu plus les hommes. Quelle place on laisse donc aux hommes dans les structures si on ne propose évidemment que, par exemple, que des activités féminines dans les centres sociaux, couture, travaux, voilà. Ouais. Voilà. Alors, cette difficulté, alors pareil, est-ce qu'on ne reçoit qu'une sorte de population ? Est-ce qu'il y a un mélange des classes sociales ? Est-ce que ce sont les habitants que les habitants des quartiers qui viennent dans les centres sociaux. Est-ce que ça ne viendrait pas de l'histoire aussi des centres sociaux, puisque à sa création, c'était vraiment du travail social dans les bonnes œuvres, alors les œuvres de bienfaisance, voilà. Donc voilà, est-ce que ces questions de mixité ne viendraient pas de l'origine, de l'histoire des centres sociaux ? Voilà en fait quelques questions qui a été soulevée par la démarche Engagir.
Alors, je prends la suite. Donc, effectivement, il y a d'autres questions aussi qui se sont posées. On a commencé à gratter encore un petit peu plus tous ces sujets-là, avec un petit paradoxe aussi nouveau. Donc, le centre social, effectivement, il est ouvert à tous, on le sait. Donc, avec une certaine quête de mixité sociale, voire de paix sociale, on peut le dire des fois. Et finalement, on réalise peut-être avec des difficultés à se faire réellement croiser les publics. C'est-à-dire qu'on a effectivement sans doute tous les publics, mais est-ce que tous ces publics se croisent ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, sommes-nous effectivement dans la mixité de classe ? Donc, on peut reparler effectivement des membres des conseils d'administration. Est-ce qu'ils sont aussi, on parlait des hommes tout à l'heure, un peu plus présents peut-être, mais est-ce qu'ils sont également représentatifs des habitants des quartiers sur lesquels sont implantés les centres sociaux ? Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, les conseils d'administration sont souvent des instances techniques dans lesquelles on retrouve souvent un certain type de public. Cela renvoie, je pense, inévitablement au regard porté sur les capacités de tous les habitants, à la place qui leur est laissée dans ces instances et surtout à l'organisation de ces instances pour les rendre accessibles et attrayantes. Le mode de fonctionnement permet-il aussi cette mixité dans le centre social ? On sait, on le combat, on le dit, mais on peut aussi voir assez régulièrement dans les structures des animations assez cloisonnées, malgré tout. Alors, comment le centre social fait que la rencontre entre les différents publics puisse se faire? Parce qu'on sait que finalement, les publics se croisent, sont côte à côte, ça c'est sûr, mais il est parfois difficile de les faire échanger. Donc, les publics sont souvent, comme je l'ai dit, cloisonnés en fonction des activités, des actions. On peut même d'ailleurs pousser le bouchon un petit peu plus loin. On peut aussi, à l'inverse, je dirais, avoir une activité, une action, un type d'activité accaparé par un certain type de population, involontairement, mais qui est là, à qui ça correspond, donc qui sont présents dans cette action, et qui finalement renvoie à d'autres habitants l'idée, qui n'est qu'une idée, que ce ne serait pas pour eux. Donc du coup, hop, ça cloisonne aussi à nouveau. Alors ça, c'est pas fatalement l'action du centre social qui cloisonne, mais c'est plutôt la fréquentation de l'action qui fait qu'à un moment donné, ça renvoie une image particulière. Alors également, mais on n'arrête pas de le dire, est-ce que ceci est fatalement négatif? On a compris aussi, on commence à le comprendre du moins, que la forme, une certaine forme d'entre-soi peut aussi être nécessaire à ce travail. C'est vrai que dans un environnement de confiance que peut installer et aider l'entre-soi, il est parfois plus simple d'aborder des problématiques difficiles, comme des problématiques de discrimination, par exemple. Je pense que l'impératif de mixité, effectivement, nous pousse à des approches plutôt consensuelles qui permettent, on y revient, d'éviter les conflits, notamment, je pense, entre les groupes sociaux, d'où cet évitement, la peur, la crainte du risque, et ainsi de suite. Comme la peur de la politisation, les sujets potentiellement dérangeants sont effectivement évités. Et finalement, dans la vie de tous les jours du centre social, sommes-nous toujours à l'aise pour réagir rapidement et publiquement, par exemple, à des propos racistes ou extrémistes? Est-ce qu'on prend, on saute tout de suite la balle au bon, on réagit immédiatement, publiquement? Voilà, j'en suis pas si sûr que ça. Également, un autre paradoxe qu'on a relevé, c'est qu'on s'autorise assez facilement le discours conflictuel quand il s'agit d'enfants, voire d'adolescents, comme si on avait une espèce d'autorité qui nous permettait d'aborder avec cette population ces choses-là, alors que dès que ça arrive au niveau des adultes, hop, terminé, ça s'efface, on n'y arrive pas. D'ailleurs, je fais aussi en même temps un parallèle, que finalement, la plus grande mixité, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans les accueils jeunes, dans les multi-accueils. Il y a voilà, ces services-là. Là, c'est... Donc voilà, tout ceci, ça renvoie à la question de la légitimité des salariés à animer. Donc on revient sur les mêmes types de problématiques que ce matin, à animer des débats contradictoires, voire évidemment à leur formation. Et on devrait peut-être tout simplement s'interroger sur notre relation au pouvoir, tout court. Le pouvoir qu'on peut avoir avec des personnes plus jeunes, ça nous interroge sur notre peur de ne pas le maîtriser avec les adultes. Ça leur envoie aussi à la représentation, à la représentativité des habitants qu'on accueille. Toutes ces dimensions multifactorielles ont d'ailleurs été déjà identifiées, interrogées. J'en prends aussi pour preuve les deux journées du mois de mai, où l'intervention de la compagnie Nage, qui avait été très appréciée, a mis en lumière justement ce type de situation. Et voilà, donc je pense qu'il y a un gros travail à mettre en œuvre, et nous devrions d'ores et déjà, c'est déjà un peu le démarrage maintenant, dans notre réseau, penser ensemble toutes ces questions, ces réflexions autour effectivement des classes sociales, des questions ethno-raciales et des questions de genre.